allemand. Il s'agit d'une rencontre entre 15 élèves qui viennent de 15 Länder et qui viennent rencontrer aujourd'hui 4 auteurs qu'ils ont lus, analysés. Je vous les présente très très rapidement. À ma gauche, Claudine Galéa pour son roman Rouge Métro, Madame Combre pour La mémoire trouée, Julia Billet pour Alors partir et Martine Pouchin pour Chevalier B. Nous avons envisagé cette matinée, enfin cette rencontre, comme un échange entre les lycéens donc, qui ont travaillé, qui ont voté hier le lauréat. Donc si vous voulez bien, je leur passe la parole pour commencer les échanges plutôt que la lecture. Voilà. Juste un tout petit point organisationnel, contrairement à ce qui est noté dans le programme, nous finirons un petit peu plus tôt, nous finirons d'ici 40 minutes. Voilà. Bon plaisir, bon échange. Le plus difficile maintenant. Qui commence ? Avec des questions. Vous commencez comme vous le souhaitez, avec des questions. Voilà.
Bon. Qu'est-ce qui était les buts de votre de vos livres ?
L'idéal, ce serait quand même que vous disiez si vous vous adressez à un auteur ou à tous les auteurs. D'accord ? Mais c'est la première question, on a le droit à un petit temps de la queue.
Donc aussi, c'est une question pour Elisabeth Combe. Qu'est-ce qui était votre... Je suis désolé. Alors, qu'est-ce qui était la but pour vous d'écrire cette livre ?
C'est difficile de répondre à cette question. Vous m'entendez ?
Oui.
Les micros marchent ou pas ?
Oui.
Bon. C'est difficile de répondre à cette question parce que je ne sais pas si j'avais un but précis en écrivant ce roman, en me lançant dans ce projet. J'ai souhaité écrire sur les enfants rescapés du génocide au Rwanda parce qu'un premier travail sur ce sujet, mais dans un livre documentaire, m'avait laissé beaucoup plus de questions que de réponses. J'avais des questions encore. Comment ça peut se passer ? Comment des hommes et des femmes peuvent en arriver là ? Comment on peut vivre après avoir traversé ce type d'événement traumatique ? Donc voilà, c'était quand même beaucoup de questions qui me restaient à moi en tant qu'auteur d'un ouvrage documentaire avec un passage sur le Rwanda. J'avais cette question, d'où le fait que je parle de l'après-génocide, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut se remettre d'un événement pareil ? Est-ce qu'on peut vivre après ? Voilà, comment on peut vivre après un événement qui est quelque chose comme le pire qui peut arriver. Alors, je ne sais pas si c'était l'objectif, un but, mais c'est un peu ce qui m'a menée à faire ce travail.
Madame Billet, je voulais vous demander si en fait vous croyez que les Gitans en France, ils sont en train de perdre un peu leur culture. Parce que ça, c'est aussi un peu ce qui est décrit dans votre livre. Je trouve qu'au début, ils ne bougent plus, etc. C'est vraiment qu'ils ne se comportent plus comme avant. Et est-ce que vous croyez que ça se perd dans ce temps, dans cette société qui ne leur permet pas de s'intégrer ?
Alors, c'est un peu compliqué. Je ne pense pas qu'on puisse dire perdre sa culture, parce qu'une culture, c'est vivant. On n'en est pas tous restés à la culture du Moyen-Âge. Ça avance. La culture d'aujourd'hui, de 2009, c'est pas exactement la culture dans laquelle, pour vous, c'est pas exactement la culture que j'étais moi quand j'étais adolescente, mes parents. La culture, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Donc, je sais pas si c'est de la perte de culture ou si c'est qu'on vit avec un temps, une époque et les choses changent. En même temps, je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire que, effectivement, il y a une culture rome avec des traditions, mais comme il y a une culture allemande avec des traditions qui se perdent aussi, et puis d'autres choses se mettent en place. Donc je ne sais pas si c'est vraiment être du côté de la perte et de l'anéantissement, de la fin de quelque chose, ou seulement de la vie qui prend le pas sur le dessus.
sauf que je crois que là, le gros problème pour les Roms, c'est qu'effectivement, la vie, elle a du mal à prendre le pas parce que les lois s'opposent, à ce qu'ils vivent dans des conditions décentes. Les a priori, les stéréotypes sont extrêmement douloureux à vivre. Le racisme est extrêmement important. Mais je ne suis pas sûre que... Je ne suis pas sûre que l'idéal, ce serait que les gens continuent à vivre comme il y a deux siècles.
Voilà. Vous avez dit qu'une culture, ça ne se perd pas, mais que ça s'évolue. Et croyez-vous que, en ce qui concerne les gitans en France, que c'est une forme d'uniformisation, alors qu'ils s'adaptent à la société de français normal, je ne sais pas comment dire.
Alors, ils ont un peu de mal à s'adapter parce que leurs conditions de vie pour l'instant sont quand même très marginales. Donc l'adaptation, elle est compliquée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, il y a de plus en plus de... J'ai découvert ça ces dernières années. Il y a de plus en plus de personnes roms qui achètent un terrain et qui posent une caravane sur ce terrain et qui passent une partie de l'année là et l'autre partie de l'année voyagent. Donc c'est comme un entre-deux et c'est quelque chose qui se fait... Il y a une région en France où ça se fait énormément. C'est une région qui s'appelle la région centre. Et c'est comme quelque chose qui est en train de s'installer, qui est pas complètement être sédentaire, avoir une maison, etc. Et qui est plus être dans le voyage, mais qui est dans un entre-deux. Donc il y a quelque chose qui se construit. Et il y a sans doute d'autres choses qui vont se construire, mais pour l'instant, ce qui est compliqué, c'est que... On ne donne pas beaucoup la possibilité aux gens de la construire parce que pas de représentation politique, par exemple.
Vous avez mentionné que ils sont en marge de la société. Et nous, quand nous avons parlé des livres, on a dit qu'en Allemagne, on ne connaît pas des Roms. Et on a comparé la situation des Roms à la situation des SDF. En marge de la société. Est-ce que vous croyez qu'on peut dire ça, qu'on peut comparer les deux?
En tout cas, ce qu'ils ont en commun, c'est l'exclusion. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment exclus aujourd'hui du système. Voilà, alors ça, ils ont en commun. Après, ils sont en commun, ils ont la misère qui sont en commun, très souvent. Mais voilà, c'est tout, je pense. Hein.
Oui, je pense que ce qui est en commun, c'est les sentiments qu'ils éprouvent. On ne peut pas comparer des situations sociales parce qu'elles sont quand même très différentes, parce que les situations culturelles sont très différentes. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas le mettre exactement en parallèle. Ça serait un peu faux pour chacune des deux parties. Mais en revanche, quand on est dans des situations d'exclusion, de marginalisation, de rejet, donc de différenciation avec le reste de la population, qu'on n'est pas reçu comme faisant partie de la population, on va dire des gens normaux, entre guillemets, hein, on a évidemment des sentiments, je pense, communs de difficultés, de souffrances, de haine, de violence, enfin tous ces sentiments qui sont des sentiments de réaction, de réactivité. Quoi, voilà. Sans doute que ça, on peut le mettre en écho, peut-être pas en parallèle, mais en écho, oui.
Alors, j'ai aussi une question à Madame Gallia. Et je voulais vous demander si l'écriture de ce livre a changé votre comportement vers les SDF. Ou si vous croyez que ce livre peut changer le comportement des gens qui le lisent.
Je crois qu'un livre ne change pas le monde. Je crois qu'en fait, moi, mon comportement, c'est parce que j'étais emplie de contradictions, comme est le personnage dans le livre, et de questions, comme le disait tout à l'heure Elisabeth, que j'ai écrit le livre. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pouvais pas me contenter de vivre ça tous les jours et de rester avec mes questions. Et de rester avec parfois mon rejet, parfois ma tendresse, parfois mon désir d'aider, parfois ma compassion, parfois mon indifférence, tout ça, quoi. De toute façon, je ne crois pas qu'on écrive un livre, ce serait d'un idéalisme absolu, on écrit un livre pour changer quelque chose, mais en revanche, je crois qu'on peut simplement se rapprocher, peut-être, être peut-être un peu moins loin. On ne peut pas se mettre à la place, encore une fois, Hein. Je crois que là, on est dans... Voilà, hein, ça recoupe pas mal de livres du prix, mais on peut peut-être se questionner davantage. Et si on se questionne, on se rapproche.
J'ai une question pour Madame Pouchin concernant les émotions de Barnabé concernant sa famille. Parce que ce que je n'ai pas compris vraiment, c'était que avant la prison, Barnabé était vraiment très, très émotionnel concernant sa famille. Mais après la prison, quand il a entendu que ses parents étaient morts, il n'a pas vraiment réagi très émotionnel. Et ça, c'était mon impression. Je voulais savoir pourquoi.
Oui. Mais c'est une question difficile. Je ne sais pas. Quand on commence un roman, on se laisse aussi aller dans l'écriture. Et le personnage a évolué. C'est pas forcément conscient son attitude par rapport à la mort de ses parents et de ses grands-parents, effectivement. Et puis tout est très 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 soudain, il n'a pas forcément le temps de réagir non plus, parce que parfois quand un événement est très très lourd et très difficile à porter, on met du temps à réagir et à se rendre compte de ce qui s'est réellement passé. Or lui, ensuite, il va avoir derrière un autre événement qui va venir remplir sa vie et combler le vide. Donc c'est peut-être pour cette raison que ça se passe de cette manière. Mais je cache pas qu'il y a des choses qui m'échappent dans la rédaction d'un livre.
J'ai une question très spéciale de tous les auteurs. Premièrement, avez-vous lu les autres livres? Et quand oui, qu'est-ce que vous pensez sur eux?
Bon, je vais commencer à répondre. J'en ai lu un seul, c'est celui d'Elisabeth. Et je l'avais lu avant de savoir qu'il serait dans le prix. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai lu, parce que pour les livres du prix, j'ai réagi en janvier et c'était un peu tard. Et j'avais lu ce livre parce que la question de... On va dire que les questions un peu, de toute façon, extrêmes me touchent, que le Rwanda m'intéressait particulièrement. Et donc, j'ai acheté le livre et je l'ai lu. Et je l'avais énormément aimé parce que je trouvais que c'était vraiment une fiction. C'était vraiment un roman, parce que j'avais lu beaucoup de choses sur le Rwanda qui n'étaient pas des romans. Et qu'en fait, c'était à la fois autour du Rwanda et à la fois au-delà. C'est-à-dire, pour moi, ce qui m'intéresse dans un livre, c'est d'aller voir l'humain. Comment l'humain fonctionne, en quelque sorte. Hein, comment on fait avec la vie, comment on fait avec la vie dans des moments compliqués. Quoi. Et donc, pour moi, ce livre avait répondu à... En tout cas, à mon désir de trouver ça. Voilà.
Merci, tu parles encore mieux. Tu parles mieux que moi de mon livre, donc merci beaucoup de parler des livres des autres. Comme Claudine, je n'ai pas lu les autres livres. Je le regrette. C'est vrai qu'on est pris dans un temps qui passe. Donc je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Par contre, d'être venue, j'en avais envie, j'en ai encore plus envie aujourd'hui. Donc je pense que je vais les lire, mais après. Donc je ne peux pas vous en parler.
Alors pour ma part, j'en ai lu un seul et je l'avais lu aussi avant cette sélection, c'était Rouge Métro. Alors j'avais eu envie de le lire pour deux raisons. D'une part parce que j'avais rencontré ce livre sur un salon et que je ne sais pas le titre, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas je l'avais acheté. Et aussi parce que j'avais écrit un livre qui mettait en scène une femme sans domicile fixe et que j'avais envie de lire un livre qui traitait aussi de ce thème pour voir un peu comment il était traité. Et c'est un livre qui m'a énormément impressionnée. Le mot qui me vient pour en parler, c'est puissant. Quelque chose de très fort dans ce livre qui m'a bouleversée et quelque chose qui m'avait beaucoup posé question quand moi j'avais écrit le livre, un livre qui s'appelle « Salle des pas perdus ». Et où là, je m'étais beaucoup posé la question de comment écrire la violence. Et ça m'avait fait beaucoup tourner. Enfin, c'était une question qui m'avait... Je sentais que c'était inévitable et ça avait été compliqué pour moi. Donc, c'était pour moi une belle découverte de lire ce texte.
Alors, moi, je les ai tous lus, en fait. Mais
m'a posé la question dans pratiquement chacune des rencontres et j'ai refusé d'y répondre à chaque fois et je vais faire la même réponse aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop difficile de répondre à cette question. Voilà, désolée.
Moi aussi j'ai une question à Madame Touchant et pourquoi est-ce que vous avez choisi un agriculteur, on peut dire, un peu maladroit et naïf comme personnage principal dans ce livre, qu'est-ce que ça symbolise?
Une fois que chacun ait sa chance, je pense que c'est un héros qui est pas forcément qui est un peu atypique, mais ça m'a semblé important justement de le mettre en scène avec toutes ses faiblesses et toutes ses forces. Je sais pas, ça s'est imposé à moi. C'est l'histoire d'une rencontre aussi, parce que j'ai rencontré le sosie de Barnabé dans une rencontre que j'ai eue avec des lycéens. Des collégiens plus précisément. Et c'était un garçon qui m'avait beaucoup beaucoup touchée. Et c'est vrai que quand j'ai eu envie d'écrire cette histoire d'amour là, j'ai pensé qu'il était le héros dont j'avais envie et besoin pour ce livre. Donc ça s'est fait de cette manière. Et puis bon, voilà, c'est tout.
J'ai aussi une question à vous quatre. Combien de temps vous avez pris pour écrire votre livre?
Combien de temps
vous avez pris pour écrire tous les livres?
Bon, ça dépend, j'en profite parce que j'aime. Ça dépend des livres en fait. Celui-là, il est très spécial, je l'ai écrit en plusieurs fois. J'ai écrit la première partie jusqu'au moment où le héros va en prison. J'ai mis 2 mois et demi. Et j'ai écrit la deuxième partie 1 an après. J'ai mis à nouveau à peu près 2 mois et demi. Mais c'est un cas tout à fait particulier, c'est pas une généralité dans ce que j'écris habituellement. Celui-là donc m'a pris à peu près 5 mois. Voilà. À raison de en écrivant 7 ou 8 heures par jour. Quand même. Voilà.
Alors moi j'ai mis du temps en sachant que c'est pas toujours du temps d'écriture, mais j'ai dû faire beaucoup de recherches parce que j'avais aucune culture de ce qui se passait pour les Roms aujourd'hui. J'avais pas de culture, je connaissais pas bien cette culture-là. Donc j'ai dû beaucoup lire, j'ai regardé des films, écouté de la musique, regardé des reportages pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, j'ai pas écrit, ou si j'ai écrit, c'était en prenant des notes. Ensuite, il a dû se passer à peu près 1 an entre le moment où j'ai commencé l'écriture de ce roman. J'ai pas travaillé 7 heures par jour, hein, c'était pas aussi régulier. Mais entre le début et la fin, sachant qu'il y a des moments où je me suis arrêtée, par exemple entre le premier jet et le temps de réécriture, je laisse toujours passer un peu de temps. Donc on va dire qu'il s'est passé 1 an et demi entre le moment où j'ai décidé de faire des recherches et puis le moment où j'ai donné le manuscrit à un éditeur.
Moi également, il y a eu tout un temps d'enquête. Il y a eu à peu près 6 mois également. De lecture, essentiellement de lecture et aussi quelques films documentaires. J'ai aussi beaucoup rencontré des spécialistes du Rwanda, des Rwandais, d'abord en Europe, en France et en Belgique, à Bruxelles, puisque le Rwanda est une ancienne colonie belge, donc il y a encore beaucoup de Rwandais aujourd'hui en Belgique. J'ai passé 1 mois et demi au Rwanda donc, pour rencontrer des jeunes rescapés. C'était absolument indispensable pour moi avant de pouvoir partir dans une fiction sur ce sujet-là. Je voulais absolument aller rencontrer ces jeunes gens. Je suis partie d'ailleurs sans savoir si je reviendrais avec de quoi écrire une fiction. Mais de toute façon, j'aurais écrit quelque chose sur le Rwanda. Mon travail, l'essentiel de mon travail consiste à écrire des ouvrages documentaires. Donc, il y a eu ces 6 mois de temps d'enquête. Le temps de rédaction ensuite, en rentrant du Rwanda, c'était en avril 2004. Il a fallu que je laisse passer du temps pour digérer tout ce que j'avais recueilli comme témoignage, comme douleur, comme histoire très très difficile. J'ai travaillé sur d'autres choses et je me suis mise à écrire. J'ai écrit le premier jet trois mois plus tard, en 3 semaines. À raison d'à peu près 2 heures par jour, pas toujours aux mêmes heures, vraiment au moment où j'étais inspirée. Le livre n'était pas fini à ce moment-là, mais c'est vrai que le premier jet a été écrit dans une sorte d'urgence, au gré d'une inspiration qui venait, qui me surprenait. Enfin, je pense que j'avais besoin, ça remontait et il fallait que je fasse quelque chose de tout ça. Et ensuite, il s'est
passé encore un an et demi. Alors, j'ai pas passé un an et demi à écrire. Si je rassemble tout mon temps d'écriture, il y a à peu près 3 mois. Mais il s'est passé près de 3 ans entre le début du projet et la parution. Mais donc 2 ans entre le début du projet et la fin du manuscrit. Voilà, et mes 3 mois d'écriture.
Alors, en fait, j'étais assez hantée par ces histoires de... Enfin, pas par ces histoires, par ces êtres que je croisais tous les jours dans le métro. Et j'avais envie de faire quelque chose, mais je... Voilà, c'était là. Voilà, mais je n'essaie pas de précipiter en général. Et en fait, j'ai vraiment proposé d'écrire à part... sur ce... Oui, j'aime pas dire sujet. J'ai décidé d'écrire cette histoire quand une collection donc, au Rouerg qui s'appelle « Dos à dos noir hein, », donc des livres avec des histoires noires, est née. Et là, tout d'un coup, ça a été le déclencheur parce qu'en fait, j'ai compris que je voulais écrire cette histoire avec un personnage adolescent. J'aurais pu le prendre une adulte. Et pour moi, ça avait beaucoup de sens que ce soit une adolescente. Et donc là, j'ai écrit assez rapidement le premier jet en 2 mois, c'était l'été. Et ensuite, je l'ai laissé parce que je laisse toujours les livres. Et après, honnêtement, je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour le reprendre et le réécrire. Je ne me souviens pas. Mais je pense que ça doit être entre 3 et 4 mois, quelque chose comme ça. Voilà.
Madame Pochin, j'ai une question. Quand vous avez écrit votre roman, quelle était votre intention? Donc, vous avez abordé beaucoup de thèmes différents, comme les OGM, mais donc, votre intention était-ce instruire les jeunes ou est-ce que vous vouliez raconter une histoire émouvante ou touchante ou est-ce que vous vouliez divertir aux jeunes ou est-ce que vous aviez une nécessité d'écrire sur un tel garçon?
Mon idée de départ, c'était... J'avais 2 idées de départ principales. L'une était d'écrire sur un amour absolu et l'autre était d'écrire sur un personnage qui ressemblerait un peu à Don Quichotte à notre époque. Donc le personnage de Barnabé avec ses maladresses, et, etc., j'en ai parlé tout à l'heure. Quant à ses aspirations écologiques, il est vrai que je peux difficilement m'empêcher d'injecter dans mes romans quelques convictions personnelles. Donc il s'est retrouvé affublé de certains mes chevaux de bataille.
Madame Galea, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire une histoire sur l'ISDF?
Ce qui m'a inspiré, c'est le fait de prendre le métro tous les jours pendant plusieurs années et de voir l'indifférence générale grandir, sachant que par ailleurs la crise économique grandit, hein, tout le monde le sait aujourd'hui, et d'être prise moi-même dans un écheveau de contradictions. Parce que, voilà, on est des êtres ni bons ni mauvais, on est des êtres qui sommes bons et mauvais. Et on bataille soi-même avec que faire avec soi-même et que faire avec les autres. Et donc, ça m'intéressait fort d'aller un peu mettre en jeu ce sentiment de difficulté, en fait, à communiquer avec les autres, parce que je pense que... Bon, je vis à Paris, dans une grande ville, et qu'il y a une forme, je dirais, un peu d'autisme généralisé qui se produit. Alors, bon, là, il y a des SDF, mais au fond, ça pourrait se transférer à d'autres populations. C'est plutôt ce sentiment de difficulté, de frontière aussi, de où on est, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on communique? Est-ce que ce qu'on est va modifier quelque chose de l'autre et de soi? Enfin, ces questions-là, pour aller vite. Hein. Je ne sais pas si je réponds.
J'ai une question à vous aussi. Vous avez écrit des discours des SDF.
Oui.
Est-ce que vous les avez inventés ou...
Oui.
Oui,
okay. Non, oui. Allez-y.
Et encore une deuxième question. Nous, en parlant de livres... de Chevalier B, on a dit que, enfin, il y avait les uns qui ont dit que Barnabé, il est stupide parce qu'il perd sa vie en aimant toujours la même fille qui est un peu égoïste et tout ça. Et il y avait d'autres qui ont dit que c'est juste la fidélité, alors que Barnabé, il est fidèle. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il a l'air d'être fidèle, en effet. Bon, sa façon d'aimer est assez peu courante. Décider que c'est un idiot parce qu'il aime une fille qu'il ne l'aime pas et qu'il continue à l'aimer malgré qu'elle lui ait bien signifié qu'il comptait absolument pas pour elle. Chacun est libre de penser ce qu'il veut d'un personnage comme celui-là. C'est vrai. Est-ce qu'il est idiot ou est-ce qu'il est au contraire, je veux dire, est-ce qu'on a besoin quand on aime d'être payé de retour? Oui, certainement que c'est mieux pour fonder une famille, etc. Mais bon, il se trouve que là, en plus, comme c'est l'histoire d'un amour hors norme et absolu d'une certaine manière, il n'a pas besoin d'elle pour l'aimer. C'est pour ça aussi qu'il lui construit une espèce de cathédrale. Elle devient une icône, elle devient une sainte. C'est un personnage hors du commun aussi. Il idéalise. C'est ce qu'on fait généralement dans un couple, d'ailleurs, on idéalise l'autre. Mais là, il idéalise énormément, puisqu'il n'a jamais de contact avec elle. Bon, alors qu'il soit idiot, chacun est libre de le penser. Moi, je ne le pense pas, mais...
Voilà, merci.
Je peux ajouter quelque chose sur l'histoire d'inventer?
Bien sûr.
L'histoire d'inventer, c'est important, parce que je ne sais pas ce que vous pourriez en dire toutes les deux. Je n'ai pas lu le livre de Julia, mais par rapport à... Sinon, on est dans le fait divers. On est dans le réel, on est dans le fait divers. Et la fiction, c'est pas du fait divers, c'est aller réinterroger le fait divers, surtout quand on est dans la violence. Bon, c'est pour ça que je parle de fait divers, hein, parce que c'est des... Bon, je vais pas... Voilà, hein, vu ce qui s'est passé en Allemagne ces jours-ci, on sait de quoi on parle. La seule manière, c'est de réinventer pour essayer de creuser les questions. Si on reproduit... De toute façon, dans un livre, ça ne marche pas de reproduire. Parce qu'on ne reproduira jamais quelqu'un, on ne reproduira jamais une situation. Le livre a sa propre logique, a sa propre... Les personnages ont leur propre mouvement, leur propre histoire. Si on prend des choses, qu'on les met directement, ça ne marche pas. Et de toute façon, ça ne nous permet pas d'aller fouiller un peu d'aller fouiller justement ces questions qu'une réalité qui nous arrête, provoque et déclenche en nous.
Je trouve que effectivement c'est une question intéressante. On m'a beaucoup demandé, est-ce que les personnages sont réels? Est-ce qu'ils ont existé? Est-ce que ce sont des jeunes gens que j'ai rencontrés? Je réponds non, même si ce sont des aspects du réel qui m'ont inspiré pour ces personnages-là. Mais effectivement, le roman, la fiction, permet d'aller plus loin. Je parlais tout à l'heure de questions que j'avais. J'ai voulu écrire une fiction et non pas à nouveau un documentaire parce que je voulais explorer le réel. Le réel et les relations humaines. Et j'aurais pu raconter ce que m'ont livré comme témoignage ces jeunes gens. Mais j'ai voulu aller au-delà. Et la fiction, finalement, me permet effectivement de fouiller, d'explorer et sûrement, peut-être de façon un peu paradoxale, de m'approcher bien plus près du réel. D'un réel que je propose à partir d'un filtre tout à fait personnel, singulier, c'est le principe, c'est l'appositionnement de l'écrivain. C'est un point de vue singulier, c'est un point de vue, c'est pas le jeu, mais c'est une autre personne aurait fait la même enquête que moi et aurait voulu raconter une fiction sur le Rwanda, elle aurait été totalement différente. Mais en tout cas, la fiction permet cette exploration que ne permet pas l'explication du réel comme on peut le faire dans des journaux, dans des livres, des ouvrages ou des documents, des textes documentaires. Voilà, je sais pas si ça...
Si je peux ajouter juste une petite chose par rapport à ça, je pense que la question de la langue est aussi quelque chose, c'est la langue qui va porter la fiction et c'est bien le travail sur la langue, le travail de la langue qui fait qu'on peut aller plus loin. Les mots nous permettent de creuser et les mots creusent tout seuls quelquefois d'ailleurs, hein. Ils viennent déterrer des choses et ça apparaît entre les lignes. Et pour moi, c'est fondamental. La question de la fiction, elle est là parce que c'est la langue qui la porte. et dans les deux sens. La fiction porte la langue et la langue porte la fiction. Il y a quelque chose. Et c'est ça qui permet ce décalage et d'être un petit peu déjà ailleurs. Et c'est le fait d'être un peu ailleurs, déjà un peu décalé, qui permet de s'interroger autrement et d'aller poser peut-être aussi d'autres questions que celles qui étaient évidentes au début.
J'ai une question, hein, Madame Combre. Pensez-vous qu'il est vraiment possible qu'une personne comme Emma qui a vu beaucoup de choses terribles, pour elle d'oublier toutes ces choses terribles, parce que pour moi, la fin de votre livre était un peu irréaliste, parce que c'était un peu comme un happy end, et c'est pourquoi, pensez-vous que c'est possible?
Que quoi soit possible, qu'il y ait un peu comme ça, une de se sortir d'un événement de ce genre-là?
Oui, qu'elle peut de nouveau vivre comme une personne normale.
On m'a énormément, je suis toujours très très surprise quand on me dit mais finalement c'est un happy end, c'est une histoire qui se termine bien, est-ce que c'est vraiment réaliste? Mais oui, bien sûr. D'abord ce n'est pas franchement, j'appelle pas ça une happy end. Ce qu'il arrive à Emma, c'est de réussir à retrouver le lien avec son passé et donc avec ce qu'elle est, avec sa propre histoire, et ça lui permet d'avancer. Mais Emma ne s'est pas remise de ce qui lui est arrivé. On ne s'en remet jamais, mais ça n'empêche pas de vivre, ça n'empêche pas d'avancer. Elle portera toute sa vie ce traumatisme, toute sa vie sera marquée et elle avancera dans un sens qui sera donné du fait de ce traumatisme-là. J'ai pas l'impression d'avoir écrit une belle histoire idéalisée et qui se termine formidablement bien. Alors peut-être que ça donne cette impression quand on lit, peut-être parce que sur le Rwanda, on s'attend, je dis « on hein, », c'est un « on » totalement impersonnel, on s'attend peut-être à des histoires, l'histoire est terrible en elle-même, mais je crois l'avoir suggéré tout au long du roman. Oui, je pouvais aussi raconter qu'à la fin, ces deux personnages ne s'en sortaient pas et plongeaient. Il y en a des enfants qui ont plongé. Moi, ce que j'étais allée voir, les questions que je me posais, c'est « est-ce qu'on peut vivre après ça ? Est-ce qu'on peut continuer à avancer après avoir vécu ça ?» Ce type d'événement extrême, les jeunes gens que j'ai rencontrés, certains m'ont permis de répondre oui, parce que eux-mêmes m'ont montré qu'on pouvait avancer. J'ai aussi rencontré des adultes qui avaient été victimes et rescapés du génocide, qui ont montré oui, la vie mène vers l'avant. Par contre, pas tout le monde, effectivement. Mais moi, j'ai voulu raconter cette histoire-là. Mais je suis toujours très étonnée quand on me dit oui, c'est une belle histoire qui se termine bien. La vie d'Emma ne sera jamais simple, et celle de Ndoli encore moins certainement, puisqu'il s'en sort. Il a des difficultés différentes, certainement plus importantes, et certains enfants rescapés ne s'en sortiront jamais, ne pourront jamais mener une vie telle qu'Emma pourrait la mener. Mais ça n'empêche pas de raconter que ça, c'est possible aussi. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Merci beaucoup.
Petite question pour tous les auteurs. Est-ce que vous aviez entendu parler du prix des lycéens allemands avant d'être choisi?
Alors, ce que je peux ajouter, moi, c'est que j'en avais pas entendu parler, mais quand j'ai dit que mon livre était sélectionné, j'ai rencontré une auteure qui m'a dit qui, l'année dernière, avait été sélectionnée et qui m'en a dit plus grand bien.
Moi j'ai encore une fois une question pour Madame Gadia sur la structure du Rouge Métro. Je voulais savoir si cette structure avait un sens plus profond que construire de suspense ou suspense.
Oui, bien sûr.
Et je voulais savoir quoi.
Il y a plusieurs raisons à cette structure. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que quand on subit un traumatisme, si on le garde à l'intérieur de soi, si on ne le parle pas, c'est-à-dire si on ne le ressort pas de soi, il peut vous briser. Hein, il pourrit à l'intérieur, il fait cette petite boule dont parle Cerise, hein, ce kyste qui peut grandir. Donc le fait de faire que l'histoire ait lieu 7 mois après permet de voir qu'elle est sortie de la chose et de refaire le chemin. Ensuite, évidemment, ça permet de créer du suspense, comme vous l'avez dit, et ça permet enfin d'avoir deux oui, deux moments et deux temps dans le récit qui sont aussi deux formes d'écriture. Hein, puisque elle écrit, elle, quand elle parle, au moment où elle parle, 7 mois après, elle écrit de manière, elle parle de manière extrêmement brève, un peu fragmentée, puisqu'elle est en train de reconstituer les morceaux du puzzle de sa vie. Et quand on est dans la journée du 19 juin du métro, là, on est pris dans un flux, puisqu'on est enfermé dans cet endroit, qu'on est en plus dans cette parole qui est une parole que les SDF, comme ça, sortent d'eux-mêmes, vomissent comme ça, et qui ne peut pas s'arrêter. Donc moi, ça me permettait aussi de... Voilà, j'aime bien jouer avec les possibilités de la langue et d'avoir toute cette polysémie, on va dire, de sens et d'ouverture, quoi. Voilà.
J'ai une question toute simple à vous quatre. Aimez-vous les images, les dessins qui ont été mis sur vos livres?
Bon, moi, ça va, oui. parce que je sens un petit flottement. On n'est pas toujours content. Mais oui, c'est bien parce que ça donne à la fois l'univers, l'atmosphère, mais sans être trop illustratif. C'est-à-dire, ça donne le danger, l'inquiétude, le danger surtout. Et pour le reste, on le découvrira en lisant, donc ça me va.
Moi, quand j'ai su qu'il y aurait une photo, j'ai eu un mouvement de recul. J'ai eu du mal à voir mes personnages représentés. Il y a un chemin entre l'histoire qu'on a en tête, qu'on commence à écrire, qu'on met dans l'ordinateur, qu'on imprime, qu'on envoie, et ça revient sous la forme d'un livre, et en plus avec une photo. Donc c'est vrai que j'ai eu un moment de recul en disant j'aurais préféré quelque chose de moins représentatif, enfin, qui représentait pas un personnage comme ça. Après, c'est vrai que je trouve que cette couverture est cette photo est belle, cette couverture est bien pensée, et j'ai eu énormément de retours positifs dessus. J'ai fini par l'accepter, mais c'est vrai qu'au départ je la trouve très différente de toutes les autres couvertures. Enfin, j'ai l'impression que ça dénote un petit peu par rapport à d'autres ouvrages, mais on me renvoie aussi que c'est ça qui permet de s'arrêter dessus. Donc voilà, c'est un choix. C'est vrai que la couverture, c'est pas le travail de l'auteur, c'est pas le choix de l'auteur, très rarement. Maintenant, je l'imagine pas avec une autre couverture.
Moi, j'ai encore un peu de mal à m'y habituer. Voilà, je l'ai pas choisi. J'aurais sans doute préféré autre chose de plus... un peu plus sobre. Voilà.
Moi, j'ai eu deux couvertures, c'est un peu bizarre. Il y en a eu une première, et puis l'éditeur a, en cours de route, décidé de changer et d'en mettre une deuxième. Une autre, je veux dire, très différente. Je pense que vous avez surtout vu celle du paysan avec la fourche. Et la nouvelle, c'est une jeune fille dans l'herbe, à l'envers, en fait.
Je n'aime ni l'une ni l'autre. Voilà. Et on ne consulte pas l'auteur pour ça, alors. Et je ne suis pas graphiste ni illustratrice.
J'ai eu la chance d'être consultée, c'est-à-dire qu'on m'en a proposé deux, en fait. Et celle-là m'a semblé juste, et voilà, mais bon.
Moi, j'ai été consultée, mais on m'en a proposé qu'une. Mais j'ai fini par dire que oui, ça correspondait quand même bien à l'histoire que j'avais écrite.
Oui, c'est moi qui ai pris le micro. Je suis désolée, j'aimerais qu'on s'arrête là, mais peut-être encore une dernière question avant de nous retrouver pour la remise des prix qui aura lieu au Congress Hall. Philippe, vous terminez ? Merci.
Vous avez tous écrit des livres pour la jeunesse. Croyez-vous qu'un livre qui est écrit pour la jeunesse doit avoir un caractère éducatif ? C'est-à-dire qu'après avoir lu le livre, le jeune doit trouver quelque chose qui l'évolue ou quelque chose comme ça ?
Non, vous devez surtout rien et il faut surtout pas, c'est terrible de dire ça. L'acte artistique, y compris nous, y compris déjà nous quand on écrit, on ne doit pas quelque chose, quoi. Hein. Il faut que ça reste libre, ça. C'est profondément important que dans la lecture, il y ait de la liberté. Donc non, qu'ensuite, à partir d'un livre, des enseignants puissent tirer des fils, ça, c'est autre chose. Mais non, on écrit, et si on écrit de la fiction, c'est aussi pour ça, on écrit pour la liberté de penser, de rêver. Enfin, ouais.
Et c'est pour ça que la première question, celle qui a ouvert
le débat, pour faire un effet de boucle. Dans quel but? Il n'y a pas un but par rapport à de futurs lecteurs quand on écrit, quand on a le projet d'écrire une fiction. Et il n'y a pas d'idée de « je veux expliquer ça ». Enfin, en tout cas, je pense dans la démarche qu'on a toutes les quatre, et de nombreux écrivains aussi, autres écrivains. On n'est vraiment pas dans le « je veux transmettre ce message ». On les reconnaît, les livres qui ont été pensés comme ça. Parce que le message, on le voit apparaître. Voilà. Mais donc, non, surtout pas.
En revanche, écrire, c'est un engagement de tout soi et lire aussi. Donc, à ce compte-là, plein de choses sont éducatives dans le monde, quoi.
Oui, je crois que là, tous les livres,
hein,
tous les livres ont un sens et peuvent prendre un sens. Et d'autant plus, ce qui serait dommage d'écrire des livres avec un message à transmettre, c'est que ça signifierait que les choses sont simples. Or, l'être humain est tellement complexe et on doit faire tellement avec la complexité d'être que pour moi, un livre qui ne montre pas cette complexité, il ne va pas résonner. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas résonner. Donc, je pense qu'après, effectivement, on peut y lire entre les lignes des choses. Il y a un engagement de l'auteur qu'on peut entendre aussi, évidemment. Mais ça n'a de sens que si les choses sont prises dans leur complexité et pas si elles sont... Voilà, je veux dire, bon, voilà, il faut penser comme ça et donc ce livre-là vous dit qu'il faut penser comme ça. Or, moi, en ce qui me concerne, je ne sais déjà tellement pas ce que je dois penser souvent que j'aurais bien du mal à dire qu'il faut choisir une façon ou une autre.
Je suis à peu près d'accord, oui, surtout que le but éducatif, moi je ne me sens pas du tout compétente ni douée pour l'éducation, mais j'ai envie de partager et c'est plus du domaine de l'émotionnel et ça sera la seule motivation initiale.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je demanderai simplement aux élèves de suivre Madame Crochot qui est ici. On pourra peut-être continuer cette discussion avec les auteurs qui vont manger au même endroit que vous. Voilà. Et les professeurs pourront suivre Madame Héberlé qui est là. Voilà. Bon déjeuner à tous.